Après avoir échangé des frappes d'artillerie et aérienne, par avion, drone et missiles durant plusieurs jours, l'Inde et le Pakistan ont convenu d'un cessez-le-feu, notamment sous pression américaine, qui a mis fin à la confrontation la plus brutale entre les deux puissances nucléaires depuis 25 ans. Chacun des deux camps s'affirme vainqueur et dit que la trêve a été accordée à la demande de l'autre, mais il ne s'agit sans doute pas d'un simple retour au statu quo ante. Les deux pays se sont trouvés durant quelques jours en état de guerre directe, sans limitation des frappes aux zones disputées, très localisées du Cachemire comme d'habitude, et avec l'utilisation d'un large spectre d'armes qu'on imaginerait impossible entre puissances nucléaires. Le monde regarde ce conflit en se demandant quels enseignements en tirer, tandis que Narendra Modi, dont la performance de l'armée apparaît à beaucoup comme décevante et démonstration involontaire de faiblesse, Narendra Modi donc a affirmé que les opérations n'étaient que suspendues et que désormais l'Inde ne ferait plus la distinction entre les terroristes et le gouvernement pakistanais, en soi une rupture dans la gestion traditionnelle du problème de terrorisme entre les deux pays. Jusqu'à présent, le cessez-le-feu tient, mais la guerre pourrait se poursuivre et se prolonger sous d'autres formes hybrides. L'Inde continue de souffler le chaud et le froid sur la question des eaux de l'Indus, ouvrant et fermant les vannes de ses barrages à sa guise, semble-t-il sans concertation avec le gouvernement pakistanais. Elle appelle à un contrôle de l'AIEA sur le stock des armes nucléaires pakistanaises. Elle soutient sans doute discrètement la rébellion baloutche qui s'est réactivée dans le dos de l'adversaire pakistanais à la faveur des affrontements sur la frontière indienne. Et surtout, pendant ce temps, la Chine se tient en embuscade. La Chine, alliée et même suzeraine du Pakistan. La Chine, dont les armes ont tenu en échec l'aviation indienne. La Chine, qui a profité du conflit pour lancer une nouvelle provocation diplomatique en renommant de nom chinois des villages de l'Arunachal Pradesh indien à l'autre bout de l'Himalaya. Alors finalement, entre Inde, Chine et Pakistan, la guerre des trois aura-t-elle lieu? Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 19 mai 2025, il est 21h46 et nous sommes en présence de l'hindouiste Léo Portal. Comment vas-tu, Léo?
Je sais pas comment te répondre en hindou. C'est assez dommage. Et
C'est dommage.
je sais même pas
C'est
si
de l'hindi en plus, la
je...
langue.
Ouais, de l'hindi,
L'hindou, c'est la
effectivement.
religion.
L'Indus aussi, c'est le... C'est quoi, c'est un fleuve?
Oui, c'est le fleuve, oui, mais ça s'écrit pas pareil. Hindi et hindou, c'est écrit avec un H. T'as vu le mec qui a bossé le sujet pour l'exposé de ce
Bah,
soir?
c'est tout ce que
Super.
t'avais bossé, non? On peut... On va s'arrêter
Voilà.
là.
C'est ça. Alors, ce soir, donc, émission consacrée au service après-vente un petit peu de ce conflit entre Chine et le Pakistan, puisque la dernière fois qu'on avait parlé, on était un petit peu sur le registre pratiquement cette fois, c'est sûr. Ce qui a suivi a semblé confirmer ça, et tout s'est bloqué. Donc, ça me paraît important de revenir dessus, et vu que beaucoup de personnes m'ont dit, mais est-ce que ça serait pas l'occasion de faire l'historionomie de l'Inde? J'ai répondu oui. Et donc, ça m'a demandé un peu de temps, mais je vous ai préparé ça ce soir. Une émission historionomique comme vous les aimez, ou en tout cas comme un certain nombre d'entre vous les apprécient, et pour laquelle nous allons commencer assez rapidement. Simplement, avant de le faire, je rappelle que la grande conférence annuelle,
Important, important. Pardon, vas-y.
le congrès historionomique aura lieu le 15 juin prochain. Nous arrivons au bout du tarif réduit, puisque ça expire quand? Demain?
Attends, excuse-moi déjà, je vais juste.
Pas envoyer les images avant que j'ai débuté le truc.
Non, non, c'est pas ça en fait. Je voulais montrer l'affiche de la conférence. Mais en fait. Donc attends, je garde la parole, voilà, parce que moi on m'entend. Philippe, on le voit pas, c'est gênant. Mais je vais juste régler ça si j'y arrive. En live, c'est un peu compliqué. Ah, c'est même très compliqué. Très compliqué en live. Attends. Copier. Hop. Coller. Ok, c'est bon, on te voit sur l'autre. Et parle.
Je suis là.
Ok, c'est bon, ça marche. Donc. Ok. Et du coup, oui, j'ai aussi envoyé l'image. Mais c'est
une
bon.
Superbe
c'est
démonstration
fait.
de maîtrise
C'est fait.
technique.
Mais ouais, regarde, franchement, pour un programme que je maîtrise pas en 40 secondes, c'est balèze.
C'est clair. Donc, c'est le 15 juin. À partir de demain. Alors, c'est à partir de demain ou le délai expire ce soir? Je sais pas comment on compute les délais.
Franchement, je sais pas, mais pour pas prendre
Donc,
de
je
risque,
suppose à
allez-y.
partir de demain soir, voilà, et pour pas prendre de risque, dépêchez-vous, l'inscription sera à 70 €. Alors, pour l'instant, elle est à 50 €. Déjeuner et collation inclus avec séance dédicace. Voilà, on va raconter des choses intéressantes, j'espère. Bien s'amuser, se rencontrer IRL, parce que finalement je n'ai rencontré qu'une petite proportion d'entre vous et je suis toujours heureux de voir les autres. Donc voilà, n'hésitez pas, pensez-y, en particulier si vous êtes pas trop loin de Paris, naturellement. Bien, même si nous aurons des gens qui viendront de très loin pour participer à la conférence. Donc, ce soir, je disais, on se lance dans l'histoire de l'Inde et du Pakistan. Alors, comme vous le savez, les émissions historonomiques, ça ne consiste pas à faire l'histoire des pays. Alors, bien sûr, l'historonomie implique qu'on se repasse l'histoire du pays, mais assez rapidement, malgré tout, parce que là, on parle de 2500 ans d'histoire. Donc, il faut forcément accélérer. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. On va surtout essayer de comprendre, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on retrouve, est-ce que ce qu'on voit en repassant rapidement l'histoire. Des Indes, hein, puisque c'est à la fois l'Inde et le Pakistan. J'avais déjà fait le Bangladesh, donc j'en reparlerai un peu. Qu'est-ce qu'on trouve comme ressort habituel et comment est-ce qu'on doit interpréter historionomiquement la trajectoire indienne et surtout, donc, où est-ce qu'elle en est, puisque c'est toujours ça qui nous intéresse quand il s'agit d'essayer de faire des prévisions et d'analyser les choses un petit peu dans ce sens-là. Alors, on va reprendre les choses depuis le début, hein, comme on fait toujours dans ce cas-là. Avec nos petites cartes que notre cher monsieur Portal a préparées, n'est-ce pas? On commence donc en 2500 avant Jésus-Christ. Alors, comme d'habitude, j'ai fait les cartes avec l'excellent logiciel en ligne Géachron, hein, qui vous montre année par année, depuis l'an moins de 3000, l'état politique, on va dire, du monde. Alors, ça peut être discutable sur un certain nombre de détails, notamment sur l'échelle choisie, par exemple. Ça ne montrera pas le morcellement féodal des grandes entités, ça vous montrera les royaumes au Moyen-Âge, mais voilà. Pour avoir une vision et pour passer les choses rapidement, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Donc, il faut savoir une chose, c'est que la civilisation indienne a alors déjà pour l'essentiel, a commencé dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Et donc, pas en Inde, à part l'état du Gujarat un peu, puisque pour la partie la plus orientale, mais pour l'essentiel, c'est la civilisation de la vallée de l'Indus. Et elle est en fait pratiquement aussi ancienne que Sumer et l'Égypte, c'est-à-dire les deux autres centres les plus anciens de civilisation dans le monde. Donc, il y a une proximité très importante avec ce qu'on appelle la civilisation de l'Harappa, et notamment un site comme Mohenjo-Daro, qui ont été découverts il y a quelques décennies et qui montrent donc des degrés de civilisation déjà aussi avancés que dans les endroits les plus avancés du monde humain, finalement, dès cette époque-là. Et donc, vous voyez qu'en l'occurrence, c'est né, donc je disais, dans la région actuelle du Pakistan, c'est-à-dire la vallée de l'Indus, c'est précisément cet Indus dont je parlais, qui prend sa source dans l'Himalaya, qui traverse le Cachemire et qui donc est un enjeu également de souveraineté encore aujourd'hui entre l'Inde et le Pakistan, puisque dans ces régions où la population est extrêmement dense, naturellement, la question de l'irrigation est une question qui est très importante, on y reviendra peut-être. Donc on fait un grand bond en avant après ça, hein, puisque il n'y a pas besoin de détailler beaucoup plus, grand bond en avant, avec une deuxième carte qui nous amène en 1500 avant Jésus-Christ. Avec la deuxième étape très très importante de la formation de cet espace indo-pakistanais, avec l'arrivée donc des indo-aryens, hein, c'est-à-dire les indo-européens tout simplement, qui à la même époque se sont mis en route, le fameux Yamnaya, en direction de l'Europe et qui sont arrivés donc jusqu'en Europe occidentale, eh bien ils ont fait le même chemin de l'autre côté. Vous savez qu'ils sont allés s'installer également en Iran. Où ils se sont fait, ils ont donné leur nom au pays d'ailleurs, hein, le pays des Aryens, l'Iran. Mais ils se sont aussi déversés dans le nord de l'Inde, ce qui vous explique notamment la grande différence de phénotype qu'il y a dans les populations indiennes, puisque là où il y a les Dravidiens au sud, ce sont ceux qui sont les populations avec le teint le plus foncé, hein, les gens sont noirs, hein. C'est pas des noirs d'Afrique, mais ils ont la peau tout aussi noire que les noirs d'Afrique. Alors que dans le nord, vous avez souvent des populations qui sont extrêmement européennes. Hein. Vous avez l'ancien Premier ministre pakistanais, Imran Khan. Vous regardez sa tête, il a pratiquement une tête de footballeur italien. Hein. Donc il y a quand même un côté voilà, de population. Vous voyez que cette trace existe encore dans ces régions-là. Donc on avance encore un petit peu plus, 500 avant Jésus-Christ, on va passer assez rapidement, où les Indo-Aryens se sont installés dans toute la vallée du Gange, et on a commencé là, si vous voulez, à voir une division finalement du territoire qui est importante entre le nord de l'Inde, et en particulier autour de la vallée du Gange. Le Gange, vous le voyez, c'est le fleuve qui est dans le nord de l'Inde, comme ça là aussi, qui descend l'Himalaya et qui descend jusqu'à l'actuel Bangladesh. La vallée du Gange qui est aujourd'hui la région la plus densément peuplée de toute l'Inde. Et pendant très longtemps, donc, cette distinction entre le nord, finalement, et le sud s'est maintenue. Et on va voir tout à l'heure que ce n'est que 1000 ans plus tard, plus de 1000 ans plus tard, qu'il va y avoir enfin un gouvernement véritablement unifié entre le nord et le sud. Mais durant la plupart de l'histoire indienne, eh bien, c'est le nord et le sud ont eu des gouvernements séparés. Séparés. Le sud était même généralement beaucoup plus morcelé que le nord, pour un tas de raisons géographiques. Mais c'est un détail, voilà, important parce que ça joue dans la formation de l'Inde. En effet, il faut se rendre compte d'une chose, parce que là, on va entrer progressivement ensuite dans l'Antiquité et le Moyen Âge. L'Inde, l'espace de l'Inde elle-même aujourd'hui. C'est plus de 3 millions de kilomètres carrés. Si vous ajoutez le Pakistan, on est autour de 4 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire que c'est la même surface de territoire que l'actuelle Union européenne. Donc autant vous dire que c'est un espace donc, qui est comparable à l'espace chinois, mais qui, vous allez le voir, a été unifié politiquement beaucoup plus tard. Et beaucoup, surtout au plan de la durabilité de l'unification politique, que la Chine. Et donc ça va poser un certain nombre de questions. C'est pour ça que, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, il n'y aura pas de parallèle exact finalement entre la trajectoire chinoise, que j'ai déjà traitée dans une émission antérieure, où en gros vous avez un processus de construction nationale qui démarre à partir du XIIIe siècle ou du XIVe siècle, avec l'indépendance de la Chine, l'effondrement de l'empire mongol. L'Inde, c'est plus compliqué. Les choses commencent plus tard, en fait, parce que le morcellement reste plus important. Et donc, de ce côté-là, d'une certaine manière, l'unité indienne est plus proche de ce qui s'est fait en Europe, c'est-à-dire quelque chose d'assez tardif, que de ce qu'on voit en Chine. Alors, on va continuer à avancer un petit peu avec la carte suivante, qui vous montrera le premier grand empire de l'Antiquité, qui est l'empire Maurya. Et vous voyez, encore une fois, à quel point vous avez cette cohérence qui sera, vous allez le voir, hein, pendant toute l'histoire de l'Inde, pendant très longtemps, ça va être ça. C'est-à-dire essentiellement un nord qui très souvent est unifié par des pouvoirs successifs, probablement parce que la vallée du Gange le favorise, un petit peu peut-être comme la vallée du Nil favorise ça en Inde, finalement. Et pendant que tout le sud de l'Inde sera beaucoup plus, alors soit peu civilisé, hein, comme c'était encore le cas à cette époque-là, mais là vous voyez commencent à apparaître des royaumes dans le sud du pays, au Sri Lanka et dans la pointe de la péninsule, et un nord qui lui sera donc civilisé beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent intégré à des grands empires. Donc ça, c'est l'Empire Maurya au 4e siècle avant Jésus-Christ. On passe à la carte suivante, vous allez voir que cet Empire Maurya s'est encore étendu. Voilà. Donc on est là aussi à peu près à la même époque où des grands empires commencent à apparaître partout, hein. Vous avez l'Empire perse qui a déjà existé à ce moment-là, l'Empire achéménide qui s'est même effondré sous la poussée d'Alexandre le Grand. Qui va créer d'ailleurs un héritage en Bactriane, hein, là vous avez le royaume gréco-bactrien actuellement, qui aura des suites. Donc là aussi, ça va amener des éléments de culture, encore plus d'éléments de culture indo-européenne en direction de l'Inde. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, vous avez, c'est le début de l'expansion de Rome. Et en Chine, vous avez, je n'y reviens pas, mais c'est au même moment que vous avez l'empire Han qui émerge, et donc l'unification. Donc on voit que l'Inde n'était pas en dehors de ce premier mouvement d'unification civilisationnelle. Vous savez ce que je vous ai expliqué chaque fois que j'ai rappelé comment fonctionnaient les très longs cycles de civilisation des civilisations. Le pic de civilisation est également un pic d'unification politique en général. Et donc, en Inde, l'empire Maurya n'est pas le seul, hein, il y en aura eu d'autres. Ça va être plus instable que ça n'a été à la fois en Méditerranée et surtout en Chine, mais il y a également ce genre de mouvement. Avec un Nord, lui aussi, qui se civilise, mais qui, vous voyez, reste divisé. Donc en 90 avant Jésus-Christ, vous avez l'empire Maurya qui s'est effondré, c'est la carte suivante. Vous avez de nouvelles entités qui commencent à réapparaître à la place. En 200 après Jésus-Christ, vous avez un nouvel empire qui est l'empire Kushan qui apparaît. Là aussi, vous aurez souvent, en fait, on le verra aussi plus tard avec à l'époque de l'empire moghol, vous avez une espèce de couloir en fait qui descend. Un petit peu de la même manière que vous avez un couloir turco-mongol via l'Iran et en direction de la péninsule turque. De la même manière aussi que vous avez un couloir à travers les steppes via le nord du Caucase et l'Ukraine en direction de l'Europe, vous avez un troisième couloir comme ça qui descend le long de la vallée de l'Indus. En direction de la vallée du Gange ensuite, et où on verra plusieurs fois des envahisseurs descendre et fonder des empires donc dans cette région qui est assez favorable, pour ceux qui connaissent le terme, qui sont habitués à la chaîne, qui a une méreporie très défavorable. Je rappelle, la méreporie, c'est la richesse dans la diversité, donc c'est l'idée que vous avez une géographie qui favorise l'émergence d'entités politiques de taille à peu près similaire et donc stable, puis ça génère un équilibre entre entités de taille similaire, comme la géographie de l'Europe, par exemple, qui favorise des États de taille à peu près similaire sur une longue durée. Ce n'est pas le cas d'endroits comme la vallée du Gange, d'ailleurs non plus comme la vallée du Nil, ce qui explique que généralement ces endroits-là sont plus favorables à l'apparition d'entités impériales. Ce qui gêne le processus de construction nationale à partir du moment où ces entités impériales n'ont qu'une durabilité assez faible de l'ordre d'un ou deux siècles, puisque vous savez que pour faire un État-nation, il faut quand même une unité qui soit beaucoup plus longue. Au 5e siècle, enfin, entre le 4e et le 5e siècle, vous avez dans le nord l'apparition de l'empire Gupta, qui est un peu considéré comme l'âge d'or de l'Antiquité, c'est un peu l'empire romain de l'époque. Au plan culturel, au plan civilisationnel, c'est considéré comme le pic civilisationnelle de l'Antiquité en Inde, qui arrive donc un petit peu plus tard qu'en Chine, encore qu'il y a eu d'autres périodes, mais c'est un peu plus tard, il faut attendre les Song pour avoir une espèce de nouvel apogée. Mais c'est plus tard qu'en Occident, naturellement, où à cette époque-là, on était déjà dans une déconfiture. Ou au bord de la déconfiture de Rome, même s'il y avait eu une réussite impériale. Et vous voyez encore une fois la division entre le nord et le sud, donc toujours pas d'unité à ce moment-là. Au 7e siècle, c'en est fini de l'empire Gupta, et vous voyez un nouvel éclatement de l'ensemble du territoire indien. Et ce qu'on va voir à partir de là, pendant très longtemps, en tout cas surtout dans la moitié sud, vous allez voir le nord, il y a des empires réguliers, et puis des morcellements réguliers qui laissent voir ce genre d'États. Et dans le sud, vous aurez aussi une multitude d'États dont les frontières seront quand même souvent... Et alors, il y en a dont l'identité est assez nette, mais la plupart, les frontières seront assez changeantes, et vous voyez assez clairement que ça suit aussi la géographie, les couloirs possibles de domination. Il y a une méreporie du sous-continent indien qui, encore une fois, n'est pas forcément terrible. Mais à partir de maintenant, vous pourrez observer quelque chose d'intéressant. Je préfère vous le dire parce que je ne vais pas vous le rappeler à chaque fois, mais vous pourrez le suivre au fur et à mesure. À l'endroit où est actuellement le Bangladesh, c'est-à-dire dans le delta du Gange, c'est-à-dire la partie le delta qui est à l'est de l'Inde, juste avant la Birmanie. Vous allez voir que on aura souvent un État de taille relativement raisonnable. À peine plus gros que le Bangladesh actuel, qui aura une assez remarquable stabilité au fil du temps. Il lui arrivera d'être intégré dans des ensembles plus grands, mais en général, quand ces ensembles s'effondrent, on reverra à peu près le même État réapparaître dans les mêmes frontières, ce qui est tout à fait cohérent avec l'émission que j'ai faite il y a quelques temps, c'était il y a 6 mois, sur le Bangladesh, et le fait qu'il est en révolution nationale depuis l'année dernière et le départ de Sheikh Hasina, c'est-à-dire qu'en fait, c'est probablement l'état du monde des Indes Inde, Pakistan, Bangladesh, qui est le plus avancé dans sa trajectoire astronomique parce que, tout simplement, hein, et tout à fait logiquement, parce que c'est celui qui a existé depuis plus longue date dans les frontières les plus stables. Voilà, tout simplement. Construction classique. Et à contrario, on verra que c'est le cas ni du Pakistan ni de l'Inde, ce qui explique leur relatif état de bon, je ne vais pas dire arriération, parce que ça peut avoir un côté péjoratif, mais enfin, si, ça n'est pas péjoratif si vous considérez uniquement une trajectoire astronomique et que vous dites forcément il est allé plus lentement, en tout cas il est clairement en retard sur la construction nationale du Bangladesh. Autre raison pour laquelle il est en retard, c'est que le Bangladesh est petit. Le Bangladesh, enfin, petit, il a des dimensions géographiques qui sont plus proches, encore une fois, de ce que sont les États européens que de ce qu'est l'Inde. L'Inde, ça fait partie de ce qu'on peut appeler les super-États, ou les super-pays, hein, comme les États-Unis, comme la Chine, comme le Brésil, c'est-à-dire des États qui ont une superficie de plusieurs millions de kilomètres carrés et une population de plusieurs centaines de millions d'habitants. Alors que les États européens, un certain nombre d'autres États, notamment du monde arabo-musulman, sont d'un ordre de grandeur en dessous, avec des territoires de quelques centaines de milliers de kilomètres carrés et des populations de quelques dizaines de millions d'habitants. Donc on voit qu'on est un ordre de grandeur inférieur. Donc je vous laisse surveiller au fur et à mesure, si je ne pense pas à vous le rappeler, le Bangladesh, et on continue notre petit voyage dans l'histoire indienne. Alors je ne vais pas partir en détail à chaque fois, simplement vous voyez que donc au 9e siècle, encore autour de l'an 1000, vous voyez, il y a une évolution des États. On voit que il y a une instabilité. On voit aussi qu'il y a quand même certaines aires qui sont assez distinctes et qui ont leur. Ça bouge en fait, si vous voulez, un petit peu comme les États d'Europe médiévale. Hein. Si vous regardez les États de l'Europe médiévale, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Grosso modo, on voit qu'il y a quand même des pôles qui sont plutôt favorables à l'émergence d'une. Tu as avancé jusqu'à l'an 1000 ou pas, Léo? Je ne me rends pas compte, je n'ai pas le retour. Voilà, tu peux passer 900, 1000, que les gens voient ça avancer. Voilà. Donc vous voyez que tout ceci évolue. C'est encore le cas. Alors on va passer jusqu'en 1000. Attends, est-ce que je suis en. J'en suis. C'est 1400 le prochain? D'accord. J'avais fait ce bond-là. OK. Parce que bon, ça n'avait pas trop bougé entre-temps. Et là, vous avez l'apparition des Mongols de Tamerlan qui arrivent par ce couloir dont je vous ai parlé, ce couloir du nord. Et c'est assez important parce que c'est eux qui vont donner naissance à la grande dynastie de l'ère moderne en Inde, qui va être la dynastie des Moghols. Alors, on peut passer en 1500, malgré tout ça, après, vous avez un reflux de l'empire mongol de Tamerlan, avec à nouveau, vous le voyez, un morcellement. À ce moment-là, le grand État, vous voyez l'État du Bengale qui est apparu, hein, et qui déborde naturellement par rapport aux frontières actuelles. L'État Bangladesh actuel, c'est à peu près le tiers de ça. Mais bon, vu que la population était de toute façon massée dans le delta, il y avait déjà cet élément de stabilité-là. En revanche, la grande puissance, le grand État du Nord, c'était le sultanat de Delhi, qui était justement issu de la conquête mongole, puisque le sultan, c'est un grade, c'est un titre turco-mongol. Et donc à partir de 1600, vous avez l'empire moghol qui est apparu. Alors je vous fais grâce, je vous ai dit on passe vite, ça veut dire que je vous cite dans la mesure du possible pas les noms de tous les, surtout que ces noms indiens c'est toujours assez difficile à se souvenir. Il y en a un qui est très facile parce que c'est le même nom que l'amiral Akbar dans la guerre des étoiles. Et donc en l'occurrence c'est Akbar qui est le grand souverain moghol qui conquiert donc tout le nord de l'Inde. Et vous voyez, on retrouve à ce moment-là une unité qui avait été celle à peu près qu'on avait connue sous l'Empire Maurya, donc le premier dans l'Antiquité, et ensuite sur l'Empire Gupta à la fin de l'Antiquité, donc toujours ce nord de l'Inde, c'est-à-dire la vallée du Gange plus une couche similaire de territoire plus au sud et incorporant la totalité de la vallée de l'Indus. Mais vous voyez que, encore à ce moment-là, le sud, d'origine donc dravidienne, est toujours indépendant avec des États indépendants. Donc si vous voulez, Vous avez un côté aussi, si je parlais de mes repourris tout à l'heure, c'est assez similaire à ce qu'on peut voir dans l'histoire européenne. Cette pointe sud de l'Inde, véritablement, la partie véritablement péninsulaire, est assez proche finalement de l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est elle qui a la meilleure méropori, qui est toujours un peu à l'écart des grands empires. Comme en Europe, hein, où je vous rappelle, la Grande Plaine à l'Est a laissé le passage, a permis d'ouvrir le passage aux Mongols. Plus tard, il y a eu l'Empire russe qui s'est engouffré. Donc c'était beaucoup plus difficile pour les États qui y étaient, notamment la Pologne, etc., les États baltes, etc., de survivre indépendamment, contrairement à l'Europe de l'Ouest qui, pendant très longtemps, est restée indépendante. Vous le savez aussi bien que moi. Et donc, si vous tournez la carte finalement et que vous mettez latéralement l'Inde, vous retrouvez un petit peu la même configuration qu'il y a à partir du quelque chose comme le Niémen et jusqu'à l'Espagne et à l'Angleterre, hein, si vous prenez avec le Sri Lanka. Donc, ça, c'est intéressant au point de vue purement géographique d'identifier cette différence. Et vous voyez que aussi pendant tout ce temps, c'est important aussi de voir ça, une bonne partie de l'Himalaya n'est tout simplement pas attribuée ou appropriée parce que ben, c'était invivable d'aller s'y installer, ça ne servait pas à grand-chose. Et vous verrez que donc ça a changé de main assez tardivement et que ça explique aujourd'hui une bonne partie des revendications qu'il y a d'un côté indien comme chinois. Parce qu'en fait, pendant longtemps, ça a été considéré comme res nullius parce que ça n'intéressait tout simplement personne d'y aller. C'est à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle donc que vous avez, donc on arrive en 1700, que l'Empire moghol s'étend donc pour la première fois vers le sud du pays, très clairement, et que vous avez, de manière endogène, puisqu'ensuite vous aurez l'Empire britannique, mais c'est exogène, une quasi-unification du territoire actuel de l'Inde. Quasi-unification, mais qui va jamais se faire totalement, et ça aussi c'est très très intéressant, parce que vous allez avoir notamment cette petite confédération marathe, là que vous voyez, la bande verte, qui va être en fait le point de départ, la base de départ, si vous voulez, de la reconquête hindouiste de l'Empire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Empire moghol, c'était un petit peu comme l'Empire ottoman. Alors ça dépend, il y a eu des moments où c'était plus. Parce que les conquérants étaient musulmans. Hein. Donc il y a eu des moments où c'était plus. Comment dire plus intolérant, hein, ou plus fanatique ou hégémonique religieusement, avec la volonté d'imposer l'islam. Mais sous Akbar, ça ressemblait à ce qui se faisait dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire avec une forme de tolérance malgré tout pour les autres religions, hein, un petit peu comme avec le système des milliettes ottomans, tout simplement parce que c'était pas gérable autrement de convertir de force cette énorme masse de population. Donc c'était véritablement un gouvernement qui était assez centralisé, avec des fonctionnaires impériaux, etc., une soumission des élites locales. Je vais revenir après sur les structures sociales, hein, pour expliquer où on en est. Mais en fait, cette formation en fait impériale de l'Empire moghol, elle était un petit peu à contre-temps, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un empire qui récupérait un petit peu les institutions perses, notamment, donc des institutions assez avancées au plan administratif, qu'il est plaqué par la force turco-mongole sur le territoire indien, en achetant aussi, en se faisant des relais des élites locales, en les intégrant à ce système-là. Mais malgré tout, même si ça a laissé des traces naturellement, culturellement, c'était quand même toujours étranger, on va dire, au fond de population, en particulier pour ce sud de l'Inde qui n'avait jamais été unifié. Et donc, c'est resté assez artificiel, en fait, et comme ça n'a duré qu'en fait moins d'un siècle, cette domination au sud du pays, ça n'a pas vraiment compté. Et donc, aussitôt qu'on va avoir ensuite un retour avec l'Empire Marathe, je vais le montrer juste après, on voit que l'Empire Marathe sera plutôt dans la continuité de ce qu'avait été l'Inde avant l'arrivée des Moghols, c'est-à-dire encore quelque chose de très très féodal, finalement, basé sur la propriété terrienne, naturellement sur le système de caste qui est assez voisin de la société d'ordre, hein, avec quatre castes, mais là aussi où vous avez la caste des brahmanes qui s'occupe de religion, vous avez la caste des guerriers, et ensuite vous avez en gros deux castes de tiers-état, on va dire la partie élite du tiers-état, qui sont les producteurs, les commerçants, etc. Et ensuite la caste en dessous, on va dire inférieure, qui est la caste plutôt des artisans, voilà, des petits commerçants, enfin de rang inférieur, quoi. Et les intouchables, ce n'est pas une caste, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est quelque chose qui est en dehors justement du système de caste. Alors, les castes, c'est vous avez des droits. Hein. Le système de caste, ça vous attribue des droits, une place dans la société, et donc aussi des privilèges au sens strict du terme, c'est-à-dire des lois qui s'adressent à un certain groupe. Ce qui caractérise les intouchables, les Dalits, c'est qu'ils sont en dehors du système de caste, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun privilège. Voilà. Ils ne doivent pas être touchés par les autres. Donc c'est pas une caste supplémentaire. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il faut pas trop s'arc-bouter sur l'idée que il faut pas s'arc-bouter parce que si vous voulez, si vous regardez l'État moghol en soi, vous pouvez avoir l'impression que c'est aussi bien administré que la France de Louis XIV, par exemple. Mais ça serait une erreur de croire que du coup, ça met à ce moment-là historiquement l'Inde au stade de la France de Louis XIV. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout parce que vous n'avez aucune unité religieuse, vous avez une grande diversité religieuse, vous avez une diversité de langue qui est encore supérieure à ce qu'était la France de Louis XIV. Vous aviez moins de 20% de la population qui parlait français, mais vous n'avez pas d'unité religieuse, contrairement à la France de Louis XIV. Et donc vous avez une hétérogénéité culturelle extrêmement forte. C'est véritablement une structure impériale, encore une fois, plus voisine de l'Empire ottoman avec sa grande extension à la fois sur l'Europe, sur le monde arabe, sur le monde maghrébin, etc. C'est plus proche de ça que d'un État-nation et pour la simple et bonne raison, j'allais dire, que au niveau des dimensions géographiques et de population, on n'est pas du tout sur le même facteur. Hein. L'Empire moghol, on est sur 150 millions d'habitants. Donc, c'est à l'époque déjà 7 ou 8 fois plus que ce qu'était le Royaume de France à la même époque. Donc, voilà, il ne faut pas faire cette erreur-là. Localement, en fait, si on veut même comparer l'Empire moghol, alors je veux pas faire de comparaison abusive, mais finalement, c'est juste en plus avancé, on va dire, malgré tout, parce que ça a récupéré quand même des institutions plus complètes, et puis l'armée de fonctionnaires qu'avait Akbar était sans doute plus importante. Mais c'est plutôt à rapprocher, selon moi, d'une sorte d'empire carolingien indien, dans la construction de l'Inde, si vous voulez. C'est un truc qui fait, dans le sens où l'empire carolingien a fait d'une certaine manière l'unité de l'Europe de l'Ouest, très avant les autres. Mais ensuite, une fois qu'il s'est effondré, je veux dire, ça n'a pas laissé de cette administration centralisée. Donc voilà, ça peut être une image qu'on peut avoir, ou éventuellement, pour réfléchir à ce qu'a été l'empire de Charles Quint, c'est-à-dire un empire qui s'est pas vraiment établi sur la totalité du continent. Mais bon, c'est moins cohérent du point de vue administratif là aussi. Bref. Donc voilà, pas de parallèle très exact, mais pour vous donner à peu près une idée de où on en était en Inde à ce moment-là, au niveau processus de construction nationale. Voilà. Et donc, ce qui va se passer dans le siècle suivant, c'est que vous allez avoir, donc on peut aller jusqu'en 1800 Léo, vous allez avoir donc l'expansion de cet empire marathe. Alors, le fait de passer 1700 à 1800, naturellement, ça vous fait apparaître tout d'un coup les Britanniques, parce que c'est eux qui sont en rouge de manière très importante dans tout le delta du Gange et dans toute la pointe. Il faut vous dire que juste avant l'arrivée des Britanniques, donc jusqu'au milieu surtout de l'imposition du gouvernement britannique, de la Compagnie des Indes, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la péninsule du Sud était aussi divisée en États différents qu'elle l'était dans les siècles précédents que je vous avais montrés. Hein. Là, le fait que ce soit rapidement conquis par les Britanniques, ça vous montre simplement à quel point c'était divisé avant. Et donc, forcément, pour les Britanniques qui jouaient les uns contre les autres, ça a été assez facile à prendre. Sorte de rébellion collective hindouiste contre le gouvernement musulman des Moghols. et qui paraît étranger aussi, parce que malgré tout, c'est un gouvernement turco-mongol, donc c'était, il y a aussi un rejet ethnique, en fait, dans ce mouvement-là, de la part de la vieille Inde, qui est l'Inde de la pointe. Et ça, c'est à comparer, ça peut se comparer d'ailleurs, encore une fois, à ce qu'ont fait, à la même époque, les Européens avec l'Empire ottoman, par exemple. Avec le reflux de l'Empire ottoman contre les Européens, qui, bien que plus divisés pendant un moment, avaient réussi à rester indépendants dans le sud, enfin à l'ouest, en Europe de l'Ouest, et ensuite ont fait refluer l'Empire ottoman. Donc, il y a un peu la même chose avec la Confédération Maratha et de manière générale les États de l'Inde péninsulaire et l'Empire moghol à rapprocher aussi de ce qui, puisque c'est un parallèle historique, à rapprocher aussi de ce qui s'est passé entre les Grecs et les Perses, hein, par exemple. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire les petits États de l'espace pluméroporique. Qui résistent et qui ensuite se lancent dans une sorte de contre-offensive qui font refluer la grande puissance impériale. Et donc, c'est comme ça que la Confédération Maratha a fait refluer l'Empire moghol tout en revenant finalement à un système de gouvernement qui était local et qui était plus cohérent avec la structure et l'état d'avancement, on va dire, endogène de cette partie-là, donc plus féodale finalement qu'autre chose. Mais bien sûr, donc, et vous le voyez d'ores et déjà à partir de 1800, l'Empire britannique, nos chers voisins anglais, était en embuscade. Je rappelle qu'en 1763, on s'était fait expulser parce que c'était la France qui avait les plus importantes possessions en Inde. Mais nous avons perdu la guerre de 7 ans et donc nous avons perdu toutes nos possessions, Pondichéry, etc. On a été jetés par les Britanniques qui ont repris tout ça pour eux-mêmes. Et qui ont donc commencé à grignoter petit à petit cet empire Maratha notamment. Et donc vous vous retrouvez dès 1858, c'est notre carte suivante, avec la proclamation de l'Empire des Indes. Alors la proclamation de l'Empire des Indes, il faut savoir malgré tout qu'il y a eu quand même une étape très importante, qui est que à partir de 1850, pardon, 1847, dans 1857, vous avez eu la révolte des Sipayes. Les Sipayes, c'était les soldats britanniques d'origine indienne, c'est-à-dire les mercenaires locaux que les Britanniques engageaient à leur service. Et c'est un mot qui veut dire soldat, d'ailleurs, l'appellation des Spahis dans l'armée française vient du même mot. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette révolte des Sipayes qui a été très violente, qui a donné lieu d'ailleurs à des combats et des exactions de part et d'autre absolument épouvantables, avec des massacres de populations civiles et tout. Donc, les Sipayes ont massacré les Britanniques. Les Britanniques ont quasi génocidé certaines villes. Ça a été très très raide la conquête de l'Inde de ce point de vue-là. On appelle ça souvent aussi la première guerre d'indépendance indienne, mais qui est donc une guerre qui a raté puisque elle a débouché sur la proclamation de l'Empire britannique. Pourquoi proclamation? Parce qu'avant ça, je rappelle que c'était la Compagnie des Indes orientales qui gérait les Indes, donc c'était on va dire semi-privé, c'est-à-dire sous contrôle du gouvernement, mais en réalité c'était des intérêts privés, c'était une compagnie. Et donc et là il y a en fait un passage direct sous contrôle total de la couronne de l'Inde, et c'est ça donc l'avènement de l'Empire britannique à partir de 1858. Il faut savoir que jusque-là, et c'est ça aussi, c'est pour ça que je vous parlais malgré tout je vous ai fait un petit parallèle avec l'Empire carolingien, c'est parce que jusque-là, les empereurs moghols existaient toujours. À partir de 1707 et de la fin du règne de, je s'appelait Aurangzeb, qui était le dernier de ce qu'on appelait les grands moghols, c'est-à-dire ceux qui ceux qui étaient vraiment puissants, quoi, si vous voulez, et qui gouvernaient la l'Inde, c'est-à-dire ceux de l'époque du vrai empire, avant le reflux face aux Marathas, eh bien, l'empire moghol, malgré tout, est resté. Avec toujours une espèce d'autorité sur l'ensemble du monde indien, en tout cas qui existait, qui était plus ou moins reconnu, même si le type n'avait plus aucun pouvoir. un peu comme ça a été le cas pour l'empereur du Japon pendant tout le Moyen-Âge japonais, finalement, jusqu'à l'émergence du shogunat, mais avant le shogunat, en fait, c'est-à-dire à l'époque où le Japon était divisé, mais aussi un peu comme le titre impérial est resté au-delà de Charlemagne, notamment a été relevé par Othon au Xe siècle. Et qu'est-ce que je disais? Je perds le fil de ma pensée. Force de me mélanger, de voyager d'un bout à l'autre du monde et de l'histoire, je me perds. Oui, et donc malgré tout, l'autorité impériale est restée, et vous savez qu'il a fallu des siècles à la France pour se dégager de l'autorité impériale et considérer les rois de France véritablement indépendants et même pas soumis à l'autorité impériale. Voilà. Donc finalement, l'autorité de l'empereur moghol est restée. Et puis les Britanniques donc ont créé l'Empire britannique, et donc à partir de là, plus d'autorité de l'empereur moghol. Désormais, l'Inde est véritablement britannique, en fait, et sous gouvernement britannique. Et donc, à nouveau, unité cette fois-ci sous gouvernement britannique. Mais quand même préciser une chose, et donc ça, c'est une carte de la division politique de l'Empire qu'il faut bien comprendre, qui vient ajouter, si vous voulez, une petite nuance sur l'unification politique britannique. C'est qu'en réalité, les seules choses qui étaient gouvernées directement par les Britanniques, c'était ce qui est sur la carte en rouge ou rose, si vous voulez. En jaune, vous voyez ce qu'on appelait les États princiers. Les États princiers étaient en fait des États clients, si vous voulez, des États vassaux, qui étaient toujours dirigés par leur roi ou leur prince local. Donc c'était un petit peu sur le mode de la fédération, si vous voulez, mais qui avait auprès d'eux un résident britannique qui les aidait à gouverner. Alors, parfois gouverner à leur place, hein, donc ça pouvait ressembler à ce qui se faisait ailleurs, mais vous voyez que voilà, c'était une division des Indes qui faisait qu'une bonne partie, et en tout cas surtout sur le territoire de l'Inde indienne, vous étiez à peu près moitié-moitié entre le territoire qui restait nominalement, alors pas souverain parce que la souveraineté extérieure était abdiquée au profit des Britanniques, mais qui, à l'intérieur, étaient censés rester souverains, voilà, même s'ils avaient, encore une fois, une souveraineté limitée par la présence des résidents britanniques. Mais donc, on ne peut pas véritablement parler d'unité administrative de l'Inde à ce moment-là, comme vous le voyez, puisque ce type de gouvernement va demeurer jusqu'à l'indépendance de 1947. Par ailleurs, dans les autres endroits, c'est-à-dire dans les endroits où les Britanniques ont imposé leur domination directe, donc les endroits en rouge, il faut savoir que l'imposition de cette domination directe a sans doute eu un rôle historique assez important parce que il y a eu comment dire? Je crois que je m'étais noté le nom que ça avait, je ne le vois plus. Je l'ai parlé dans mes notes. C'était la doctrine de. Faut que je retrouve le nom. Qui permettait en fait aux Britanniques d'exproprier en fait certaines lignées de gouvernants indiens. C'est-à-dire que c'est comme ça que les Britanniques ont conquis une bonne partie du territoire, c'est que les Britanniques ont imposé que quand un prince indien n'avait pas d'héritier mâle, eh bien, contrairement à ce qui était. Voilà, c'est la doctrine du laps, ça s'appelait. Donc, c'est une forme de réforme agraire, si vous voulez, au fur et à mesure, qui est faite par les Britanniques. Cette idée, c'était que donc si vous avez, traditionnellement les princes indiens qui n'avaient pas d'héritier mâle pouvaient décider d'adopter un petit peu à la manière des empereurs romains un héritier pour maintenir l'entité étatique, si vous voulez. Les Britanniques ont imposé que cela prenne fin, et donc quand vous aviez donc un État princier sous suzeraineté britannique qui n'avait pas d'héritier, c'était la couronne britannique qui s'emparait du truc, et donc ça devenait en fait un dominion britannique direct. Voilà, c'était la doctrine du laps, ça s'appelle. C'est le laps, c'est-à-dire le fait de tomber, de glisser en fait dans l'escarcelle de la couronne, hein, tout simplement. Et donc il y a beaucoup d'endroits dans lesquels ceci a amené à la destruction des élites politiques traditionnelles. Et donc ça, forcément, comme vous savez que l'historionomie, la naissance des États-nations, c'est un processus sur le long terme qui est très organique, d'apparition, d'homogénéisation culturelle, d'apparition de réseaux d'élites, de classes, sociales, etc., qui évoluent les unes par rapport aux autres. Si vous arrivez que vous en décapitez une ou que vous faites comme si vous récoltiez le miel en enlevant un rayon, tout d'un coup, vous grattez tout, vous remettez, il n'y a plus rien. Forcément, ça bouleverse les structures sociales locales et généralement, ça ramène un retour en arrière et la nécessité de revenir sur la création de nouvelles élites finalement. Et ça peut créer des problèmes assez importants, notamment quand on sait que l'évolution politique, le passage d'une phase à l'autre de la construction nationale, c'est généralement la prise de relais d'une classe plus large, d'une classe plus restreinte, pardon, par une classe plus large. Hein, souvent, la population, la bourgeoisie qui s'enrichit, qui est une bourgeoisie de plus en plus large. Vous avez souvent la bourgeoisie précédente qui va venir dégager d'abord l'aristocratie terrienne féodale, et ensuite vous avez une bourgeoisie un peu plus large qui va dégager la première bourgeoisie. C'est comme ça que ça se passe. C'est les fameux cimetières d'élite dont parlait cimetières d'aristocratie, pardon, dont parlait Pareto, c'est-à-dire les aristocraties se remplacent les unes après les autres, comme ça, dans ce mode de circulation. Donc si vous avez un intervenant étranger qui arrive et qui dézingue une des couches, forcément, ça a un effet sur le long terme, sur la transition. Qui est assez important, assez difficile à mesurer en soi, mais dont on peut mesurer les conséquences à la fin. C'est ce qu'on va essayer de faire pour savoir à peu près où est-ce qu'on en est et donc voir où a été en fait le point de départ de cette apparition de l'État indien. Donc on avance encore un petit peu plus, on va en 1900, où vous voyez l'Empire des Indes s'était encore étendu. Alors et en Occident, et que désormais, surtout, ça qui est important, il recouvrait la totalité du territoire indien actuel et la totalité du Pakistan actuel. D'accord? Donc ça, c'est important parce que ça va forcément avoir des conséquences au moment où il va falloir faire le partage de tout ceci. Ce partage, il va avoir lieu à partir de 1947, qui est le moment de l'indépendance de l'Inde. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sous domination britannique, vous avez eu malgré tout quoi qu'imposé de l'extérieur, une unification relative territoriale, une relative unification administrative modulo les deux différences d'imposition de régime que j'ai citées plus haut. Et donc, vous créez néanmoins un espace avec une force, vous catalysez l'homogénéisation en fait, de cet espace-là. Puisque à la fois vous êtes un étranger qui s'impose à l'ensemble de cette population, et donc des populations qui étaient, encore une fois, vous l'avez vu, pendant très longtemps séparées, en particulier l'Inde péninsulaire et l'Inde du Nord, entre hindous et musulmans, etc., et bien toutes ces divisions, tout d'un coup, sont face à une altérité qui est encore très supérieure, qui est celle du colon britannique, finalement. Et donc ça, forcément, ça favorise le rapprochement et donc progressivement l'homogénéisation de la population indienne, avec l'émergence d'un sentiment national proprement indien. Et c'est comme ça que le premier grand parti indien, qui est encore aujourd'hui l'un des deux grands partis du système politique indien, qui est le parti du Congrès. Le parti du Congrès, c'était avec l'idée de rassembler des représentants de toutes les religions, les cultures de l'Inde. C'est-à-dire le parti du rassemblement, hein, si tu veux, le rassemblement national indien, c'est ça, face aux Britanniques. Et c'est ce parti-là qui va défendre et porter l'idée de l'indépendance de l'Inde et d'un gouvernement autonome des Indiens par les Indiens, en fait, tout simplement, sans les Britanniques. Et donc, forcément, tout ceci va, comme dans un certain nombre d'autres endroits, pardon, je tape le micro. Tout ceci va être favorisé par les difficultés des Britanniques dans la Seconde Guerre mondiale, qui vont demander naturellement une forte participation, notamment des Indiens. Il y aura dans le même rapport qu'aura eu la France avec les populations d'Afrique. Qui auront été en lutte proche, hein, en Birmanie contre les Japonais, etc. Donc tout ceci va favoriser l'émergence de la volonté d'indépendance de l'Inde. Et dans le même temps, vous avez eu donc deux mentalités en Inde. Vous avez eu d'un côté la mentalité plutôt partie du Congrès, donc on se rassemble entre gens pas de la même religion parce qu'on est tous indiens, etc. Je vous la fais courte, hein. Pour obtenir le gouvernement de l'Inde. Et ensuite, vous aviez d'autres gens, d'autres courants qui, du côté musulman, qui eux étaient favorables à une autonomie et une indépendance proprement des populations musulmanes, avec un gouvernement pour les populations musulmanes. Et c'est ça, ce sont ces deux courants finalement qui vont faire naître la partition telle qu'elle a eu lieu entre donc le Pakistan d'un côté, l'étymologie discutée, ça peut être à la fois le pays des purs et aussi les initiales des provinces qui constituaient le Pakistan à l'époque, même si ça tient pas trop d'après moi si on met le Bangladesh dedans. Et parce qu'à la base, ce que vous voyez, c'est, je sais pas si tu as mis la carte 1948, Léo, il faut passer à 1948. Vous verrez, voilà, vous allez voir que bon, alors à cette époque, le Cachemire reste encore possession au Royaume-Uni, hein. Il n'allait choisir son positionnement qu'après, je vais y revenir. Mais le Pakistan, à la base, c'est Pakistan plus Bangladesh. Et le Bangladesh, c'est l'autre morceau du Pakistan, c'est le Pakistan oriental. On va voir que là aussi, ça va donner lieu à une guerre, et ça fait partie du passif entre l'Inde et le Pakistan. Mais en gros, c'était des endroits qui étaient très peuplés de musulmans, vous comprenez pourquoi. Vous avez le couloir tout simplement d'arrivée des Turco-Mongols autour de l'Indus, donc naturellement là-bas, population musulmane importante. Et le delta du Gange, sans doute parce que c'était le point d'arrivée finalement au bout du Gange, une région assez riche et comme je vous l'ai dit, assez stable, et donc où l'islam avait également fortement progressé. Donc, vous avez cette partition des Indes qui se fait sur ce modèle-là. Et vous avez la première guerre qui arrive en 1950 entre donc le Pakistan et l'Inde à propos de la question du Cachemire. Pourquoi? Parce que le Cachemire a dû choisir à qui il allait être rattaché. Est-ce qu'il allait être rattaché à l'Inde? Hindou, donc, et ou au Pakistan musulman, le Maharaja du Cachemire a opté pour l'Inde, mais sa population, qui était majoritairement musulmane, elle était plutôt favorable au Pakistan. Et naturellement, l'Inde, qui pensait être dans son bon droit à avoir le tout à partir du moment où le Maharaja l'avait dit, a décidé que c'était à elle. Le Pakistan, qui voulait suivre les souhaits de la population et puis que ça intéressait aussi de récupérer cet endroit-là, notamment pour le contrôle des eaux de l'Indus, décidé de prendre son et donc a décidé de prendre le Cachemire aussi. Et donc vous avez une guerre qui s'est disputée entre les deux et qui a donné lieu à la mise en place de ce qu'on appelle la ligne de contrôle aujourd'hui, qui est la ligne d'arrêt, si vous voulez, la ligne d'armistice. De séparation entre le Cachemire occupé par le Pakistan et le Cachemire occupé par l'Inde. Voilà. Qui, à l'époque, était ceci. Mais vous verrez que ça n'a pas la même forme que maintenant. Pourquoi? Parce que dans ce Cachemire occupé par l'Inde, vous avez l'Aksai Chine. D'accord? L'Aksai Chine, c'est cette espèce de blob comme ça que vous voyez qui pénètre dans le territoire du Tibet, d'accord? Et lors du, vous voyez, c'est ce qui disparaît quand vous passez en 1963. Autre truc d'ailleurs, si on peut juste, excuse-moi Léo, réafficher la carte de 1900 et 1920, parce que les gens vont voir quelque chose. Les gens vont voir, vas-y, remets-moi 1900 et 1920 alternativement, et tu les affiches alternativement comme tu as fait pour 50 et 63. Parce que là, vous voyez que l'Aksai Chine et l'Arunachal Pradesh, donc à l'autre bout de l'Himalaya, sont deux endroits qui ont été conquis par l'Empire britannique sur le territoire chinois, alors que la Chine était en pleine révolution interne, puisque vous savez que la révolution commence en 1911, donc le pouvoir impérial s'est effondré, et donc les Britanniques en ont profité pour grignoter des morceaux de territoire chinois, ce qui vous explique que les Chinois le revendiquent aujourd'hui, parce que pour eux, ça faisait des siècles qu'ils avaient ces morceaux-là. Et ce sont les Britanniques qui l'ont pris, mais les Indiens, depuis, eux, ils veulent le garder. Donc les Indiens considèrent que c'est toujours à eux, donc on peut revenir en 1948, même 1950, pour la carte, et même si tu le souhaites, mon cher Léo, passer donc en 1963 comme tu l'avais fait. Et en 1963, nous voyons quoi? Nous voyons donc que la Xiaxin a été perdue par l'Inde. Et pourquoi la Xiaxin a été perdue par l'Inde? Tout simplement parce qu'il y a eu la guerre sino-indienne de 1962, qui est arrivée donc 11 ans après la reprise du Tibet par les troupes de l'armée populaire de Mao, et qui, cette fois-ci, donc, ont pris la Xiaxin aux Indiens. Donc, c'était très important pour les Chinois, d'une part, parce que pour eux, c'était à eux, mais d'autre part aussi, parce que la Xiaxin, c'est un plateau dans l'Himalaya qui est un petit peu en surplomb et qui pénètre, en fait, au Tibet, et qui, les Indiens avaient peur que ça serve de tête de pont, finalement. Pardon, les Chinois avaient peur que ça serve de tête de pont aux Indiens pour récupérer l'Inde, puisque pour les Indiens, en fait, le Tibet, c'est également une sorte d'extension qui pourrait être aussi dans leur aire d'influence, comme poursuite du Bhoutan, du Népal, etc. Et naturellement, les Chinois ne l'entendent pas de cet œil-là. D'une certaine manière, on peut se dire que le Tibet est un peu la Suisse de la région, finalement, et qui est disputée par tout le monde. Sauf que le Tibet n'a pas réussi à rester indépendant, contrairement à la Suisse. Mais peut-être que ça finira par arriver. Le Népal a réussi, lui. Donc c'est peut-être plutôt le Népal, la Suisse. Enfin bref, on verra dans l'avenir ce que ça donne. Mais toujours est-il que voilà, la Xiaxin, donc pris à ce moment-là par la Chine sur l'Inde. On avance en 1972. Alors toujours, c'est parce que sur Géacron, je dois prendre l'année suivante pour que les changements qui sont arrivés au cours d'une année soient caractérisés. Donc en réalité, le changement a eu lieu en 1971. Mais donc voyez, en 1972, ce qui a changé, c'est que le Pakistan oriental n'est plus le Pakistan, c'est le Bangladesh, parce que il y a eu une guerre d'indépendance qui a été une guerre dans laquelle l'Inde a pris le parti du Bangladesh qui voulait son indépendance du Pakistan. Et on comprend que c'est assez logique parce que finalement le Bangladesh n'avait aucune raison historique d'être vraiment lié comme ça, gouverné par le Pakistan, d'avoir l'impression d'être une espèce de dominion pakistanais. Alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le royaume du Bengale et sous divers noms avait été relativement stable pendant très longtemps et donc avait cette identité beaucoup plus forte. Et je renvoie à l'émission que j'avais fait donc sur le Bangladesh, sur ce que ça a signifié dans la trajectoire nationale bengalaise et pourquoi aujourd'hui donc ils en sont à leur processus de révolution nationale. Mais ça a donc été le motif d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan, puisque les Indiens y ont vu le moyen de ne plus avoir de Pakistanais dans le dos d'une certaine manière en prenant le parti du Bangladesh à ce moment-là. Donc, guerre indo-pakistanaise à ce moment-là. Alors, des guerres. Attends, alors je regarde si. Parce que j'arrive plus à les faire défiler, donc il me manque des cartes. Non, ok, j'ai pas mis d'autres cartes. Alors, de toute façon, donc si vous voulez, de toute façon, les frontières aujourd'hui sont encore celles qui datent donc de 1972. C'est-à-dire que les frontières, ce sont celles-ci. Ça n'a pas bougé. Il y a eu naturellement d'autres affrontements, d'autres guerres entre l'Inde et le Pakistan, parmi lesquelles les dernières les plus importantes étaient la guerre de 1999, qui était elle aussi à la suite d'un attentat. Et vous avez eu et le alors en 1999, le Pakistan n'avait pas encore l'arme nucléaire, donc c'était pas encore véritablement une guerre entre puissances nucléaires. Donc ça a été une guerre chaude, mais pas une guerre entre puissances nucléaires. Le conflit de Kargil. En revanche, il y a eu en 2001 une nouvel attentat qui était carrément une attaque du Parlement indien par des terroristes. Et là, il y a eu juste une confrontation, en fait, qui n'a pas été, il n'y a pas vraiment eu ça n'a pas été une guerre aussi forte qu'au moment du conflit de Kargil, parce qu'à ce moment-là, les deux pays étaient nucléaires et donc ça a été un autre problème. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que j'en ai parlé au cours de plusieurs émissions que j'avais consacrées à la question nucléaire, de cet affrontement. Et puis là, c'est pas le plus important à ce stade-là. Donc voilà où on en est, si vous voulez, de cette situation indo-pakistanaise. Alors, au plan historionomique, qu'est-ce que ça veut dire ? Où en est la composition de ces deux pays ? Eh bien, si vous gardez en tête donc ce que je vous ai montré, si vous repartez, que vous remémorez ce que je vous ai monté tout à l'heure avec la carte en 1500, on avait encore un système qui était encore tout à fait morcelé, hein, qui ressemblait véritablement à l'Europe de la même époque. Fallait pas encore afficher ça, Léo. Ah, pardon, merci. Et donc, vous avez les premières unifications avec l'Empire moghol en 1700. Mais la réalité, et ce qui est intéressant si on veut essayer de comprendre historiquement, c'est ce qui se passe à partir... Mets la carte de 1800, s'il te plaît. C'est-à-dire que, vraisemblablement, ce qui serait arrivé, si les Britanniques n'étaient pas arrivés, c'est probablement que l'Empire marathe se serait développé de plus en plus, et c'est peut-être lui qui aurait fait si on considère qu'il devait y avoir une sorte de tension ou de déterminisme vers l'unification de l'Inde à ce moment-là, ce qui n'est pas forcément sûr, encore une fois, puisque, comme je vous l'ai dit, on est quand même à l'échelle européenne, hein, donc il aurait pu y avoir plusieurs États indiens, notamment du Sud, qui avaient été stables pendant un moment, qui seraient devenus des États comme les États européens. Mais vous auriez pu avoir aussi un déploiement. Il faut savoir qu'à la veille de l'arrivée de l'Empire britannique, la Confédération marathe était encore en train de se développer. Même si vous aviez tous les États actuels qui sont marqués sur la carte que vous voyez dans le sud de la péninsule, l'Empire britannique, qui en était indépendant, mais c'était, vous voyez que quand on voit le point de départ sur la côte, c'était un progrès. C'était pas encore une unification de l'Inde, mais ça faisait une bonne base, si vous voulez, pour un point de départ d'État central qui aurait pu amener une unification. C'est difficile de dire si l'unification de l'Inde à ce stade, encore une fois, était une nécessité historique. À cette date, je veux dire. Parce que si vous prenez l'Europe, finalement, et ça c'est quand même très intéressant, l'Union européenne également, c'est à partir des années 1950 que l'Europe se crée véritablement. C'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas du tout dit que les choses n'auraient pas dû se passer en Inde comme elles sont passées en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être eu absolument aucune nouvelle unité après l'Empire moghol de l'ensemble du territoire indien si les Britanniques n'étaient pas venus. Peut-être que les nations, notamment les plus péninsulaires, ou les États les plus péninsulaires de l'Inde, se seraient développés comme des États-nations indépendants, comme les États d'Europe, et que leur unité, leur fédération, finalement, ne se serait fait qu'à peu près au moment où elle a commencé à se faire en Europe, c'est-à-dire avec, pour commencer, la constitution de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951, et ensuite avec le traité de Rome en 1957, ce qui correspond à peu près au même moment en Inde. Vous voyez ? Donc, il y a peut-être un parallèle dans l'évolution comme ça, c'est-à-dire que, autant vous pouviez avoir des États indiens qui étaient plus avancés ou historionomiquement pratiquement aussi avancés que certains États européens. Alors, peut-être pas aussi avancé, peut-être avec un siècle de retard, puisque la plupart des États européens ont fait leur révolution nationale à partir de 1918. Donc, le Bangladesh, on considérait que le Bangladesh, qui aurait peut-être été l'État le plus avancé, ne l'a fait que maintenant, donc avec un siècle de retard. Mais enfin, elles n'auraient eu qu'un siècle de retard dans leur construction nationale par rapport à ce que ça a été en Europe. C'est assez difficile à affirmer. Et de toute façon, on peut pas le décider. Parce que tout ce qu'on voit, c'est que l'histoire qui nous a été léguée, c'est celle d'un empire britannique qui a fait l'unité de l'Inde malgré elle et qui a catalysé finalement l'unité de l'Inde. C'est comme si toute l'Europe avait été unifiée par un empire il y a 200 ans. Ça aurait sans doute accéléré l'émergence d'un État-nation européen. Bon, ça n'a pas été le cas en Europe. Le processus a été exclusivement endogène. Donc à partir de là, forcément, en général, quand c'est purement endogène, c'est plus lent. Vous avez des interventions extérieures qui peuvent à la fois accélérer et ralentir le processus. Je pense que l'intervention britannique a accéléré l'homogénéisation de l'Inde dans son ensemble, l'a peut-être ralenti localement par la destruction de certaines élites locales dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, si on regarde ça, si on regarde ce processus, la mise en place du système indien, et qu'on module avec le retard qu'on doit avoir par rapport à l'Europe, et qu'on regarde les institutions indiennes en soi, je pense que les institutions de la fédération, puisque l'Union indienne est une fédération, doit être au stade de ce que j'appelle la phase oligarchique. C'est la deuxième phase, c'est pas la plus avancée, c'est après la phase féodale, c'est l'émergence d'un pouvoir centralisé mais qui est encore oligarchique, qui n'est pas absolutisé. Hein, vous avez encore des pouvoirs locaux qui sont importants et qui s'affrontent, comme les États-Unis en fait. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, si je dois mon avis, et c'est le consensus un petit peu sur lequel les gens qui s'intéressent au sujet sont arrivés dans les canaux de recherche historionomique, c'est que je remercie Antoine, en particulier et Martin, qui m'a synthétisé ses observations sur le sujet pour m'aider à préparer l'émission. C'est que l'Inde, actuellement, vraisemblablement, depuis Narendra Modi, est probablement au même niveau que sont les États-Unis avec Trump, c'est-à-dire en voie d'absolutisation, c'est-à-dire avec une concentration du pouvoir. C'est-à-dire une sortie de la phase oligarchique. Et grosso modo, en fait, c'est pour vous dire que l'Inde aujourd'hui est à peu près au stade où en était la France au XVIIe siècle, voilà, dans le processus de construction nationale. C'est-à-dire, c'est un État qui est encore très hétérogène culturellement, et dans lequel on a une mutation des élites qui est en train de se faire. Parce que le parti du Congrès, c'était finalement des élites assez élevées, on va dire, assez aristocratiques localement. C'était des élites urbaines, c'était des gens éduqués, c'était des gens riches, souvent des fils de propriétaires terriens. En fait, c'était les élites normales de l'Inde qui estimaient que c'était à elles de gouverner et pas à l'étranger qui était venu les dominer. De la même manière que les Moghols étaient venus les dominer, là, les Britanniques arrivaient pour les dominer, ils disaient non, c'est à nous de gouverner. Mais donc, c'était les élites locales. Donc, le parti du Congrès, c'est déjà l'émergence de ça, et les grandes familles de Gandhi, de Nehru. Tout ça sont assez typiques de ça, d'une aristocratie locale. Avec Narendra Modi, mais déjà avec la mutation qui s'est faite dans l'Union indienne à partir des années 90, on entre dans l'étape suivante, véritablement, c'est-à-dire dans un début au moins d'absolutisation. On a quelques indices de ça. Vous avez dans les années 90 la commission Mandal. La commission Mandal, c'est une commission qui vise, grosso modo, je vous le fais rapidement, à améliorer l'égalité des droits sociaux et politiques à l'intérieur du pays, en dépit du système de caste notamment, qui va réserver un tiers, entre un quart et un tiers, en fait, je crois que c'est 27% des emplois publics, à ce qu'on appelle les OBC, c'est-à-dire les Other Backwards. Je ne sais plus quel est le dernier. Ah, je l'ai vérifié tout à l'heure. C'est en fait on va dire les autres castes inférieures, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas les intouchables, attention, mais c'est essentiellement des gens qui appartiennent aux deux castes. Je vous dis qu'il y a quatre castes, hein, les plus hauts, c'est les brahmanes, ensuite vous avez les noms m'échappent, je suis désolé, vous avez la caste des guerriers, donc les brahmanes, c'est les prêtres. Et ensuite, vous avez grosso modo la bourgeoisie ou le tiers-État cossu, hein, si vous voulez faire une image. Donc, les gros commerçants, les gros artisans, etc., certains propriétaires terriens. Et en dessous, vous avez les serviteurs, les petits artisans, etc.
Après, c'est pas
Et
facile à dire, hein.
de quoi?
Ben
Tu es allé vérifier les noms?
ouais.
C'est une tannée, oui.
Tout en
Je
bas,
veux
c'est
pas.
les choudras, je crois.
Oui, c'est ça, c'est les Shudras. La plupart des OBC, en plus, OBC, c'est un acronyme anglais parce que c'est l'administration britannique qui avait mis ça en place. Et la plupart des je vais vous le retrouver, hein, je vais vous retrouver l'appellation. Ouais, merci, ça m'arrangera, c'est parce que c'est voilà, c'est au backward classes tout simplement, c'est-à-dire les classes, les autres classes du bas, ça rassemble un peu, voilà, c'est une partie des castes traditionnelles, c'est des gens qui font partie du système des castes mais qui sont inférieurs. Et en fait, si vous voulez, c'est justement donc grosso modo c'est le tiers-état en fait, hein, les other backward classes, et ça rappelle en fait, la montée au pouvoir de la bourgeoisie pendant l'histoire de France, ça rappelle ces choses que je détaille dans Hail César d'ailleurs. Ça rappelle comment petit à petit les classes populaires génoises ont réussi à faire diminuer le nombre de postes réservés à l'aristocratie dans la fonction publique. Il s'est passé la même chose aussi avec dans la montée de l'ordre équestre, hein, c'est-à-dire la partie enrichie de la plèbe, essentiellement, qui était un ordre anoblisse finalement, mais à côté du Sénat, qui étaient les gens issus de la plèbe et enrichis, qui se créaient leur ordre de noblesse à eux, si vous voulez, pour concurrencer le Sénat, et qui eux aussi ont réussi à faire en sorte que la moitié, par exemple, des sièges de jurés leur soient réservés, et plus aux sénateurs, etc. Et donc ce type-là de décision politique, comme celle qui a été entraînée par la commission Mandal, c'est assez typique de la montée en puissance du tiers-État, mais encore dans le cadre de l'Ancien Régime. Et la montée en puissance du tiers-État dans le cadre de l'Ancien Régime, c'est la phase d'absolutisation. C'est-à-dire ces moments où le pouvoir central s'appuie justement sur cette bourgeoisie qui monte pour casser le pouvoir des classes les plus oligarchiques, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens, les grands industriels, etc. Et assez typiquement, Narendra Modi, c'est ça. Narendra Modi, c'est un type qui est plutôt très provincial, hein, puisqu'il vient d'une toute petite ville de quelques dizaines de milliers d'habitants dans le Gujarat. Donc c'est vraiment un provincial, un fils d'épicier en plus, et qui a obtenu son diplôme universitaire par correspondance en plus. Donc il fait vraiment partie, c'est vraiment l'ascension d'un personnage populaire. Et historionomiquement, ça correspond à un certain nombre de figures qu'on connaît bien. Ça correspond, par exemple, à l'émergence de ce qu'on a appelé les capitaines du peuple, que ce soit à Gênes, que ce soit à Florence, et qui représentent aussi la montée vers l'absolutisation de ces régimes-là, c'est-à-dire des personnalités qui s'appuient sur le peuple pour devenir des chefs, si vous voulez, et voilà, arriver à détruire l'oligarchie, s'imposer à l'oligarchie et créer véritablement une structure pyramidale où c'est l'État absolutiste qui s'impose à tout le monde de la même manière, aux oligarques comme aux autres. Voilà, donc c'est un moyen de rabaisser les oligarques. Et donc je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec Modi, d'autant plus que, et là je remercie Guillaume qui m'avait souligné ce parallèle qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez un parallèle tout à fait intéressant entre l'évolution d'Israël, dont j'ai parlé récemment, dont on a dit aussi que vraisemblablement l'État était en voie d'absolutisation avec Netanyahou, qui est un petit peu dans le même mode de personnalité, justement, de personnalisation du pouvoir, même si le type est un Premier ministre, etc., dans le cadre de ce type de régime. C'est que c'est très intéressant parce que Israël et l'Inde ont conquis leur indépendance en même temps, 47 et 48, donc à un an près, tous les deux face à la puissance britannique. Immédiatement, il y a eu un processus de partition du territoire, solution à deux États finalement. La solution a vraiment été concrétisée pour l'Inde et le Pakistan, moins pour Israël, mais c'est intéressant aussi parce que vous avez eu la Cisjordanie et Gaza qui, de la même manière, qui se sont dissociés entre justement la Cisjordanie et Gaza avec l'OLP qui est restée, l'autorité palestinienne, au contrôle de la Jordanie et le Hamas qui est tombé il y a longtemps sous le contrôle du seul Hamas. Donc ça, c'est comparable à la séparation du Bangladesh et du Pakistan. Vous avez eu donc un conflit durable avec les populations musulmanes. D'abord, vous avez eu les premières décennies de la vie politique indépendante où vous aviez un parti hégémonique avec qui était celle des fondateurs, véritablement, et même des fondateurs pratiquement aristocratiques, hein, qui essentiellement en Israël étaient les Ashkénazes, donc originaires d'Europe. Et vous avez toujours cette séparation d'ailleurs qui existe avec les Séfarades qui sont arrivés ensuite et qui sont considérés avec un peu de mépris par les élites ashkénazes. Qui sont un électorat d'ailleurs plus populaire, c'est un petit peu comme l'électorat de Narendra Modi d'ailleurs. À chaque fois d'ailleurs, les orientations politiques étaient similaires, donc c'était assez socialisant, hein. C'était non aligné, vous savez, Nehru, mais c'était un petit peu pareil. Donc et Guillaume me soulignait le parallèle avec d'un côté Nehru, Ben Gurion et ensuite Indira Gandhi, Golda Meir. Effectivement, on voit quelque chose comme ça dans le fonctionnement. Et ensuite, dans un deuxième temps, à partir de 77 en Israël et un peu plus tard, à partir des années 90 en Inde, donc c'est là que vous aurez la commission Mandal, vous avez un basculement nationaliste, véritablement ethno-nationaliste et religieux identitaire, avec donc un retour de la religion en politique, hein, où Israël, qui est un laïc de base, a vu une influence des religieux de plus en plus importante à partir de la fin des années 70. Et en Inde, c'est l'idée de l'hindouisme et l'affirmation hindouiste et identitaire hindouiste contre les musulmans qui a commencé à s'affirmer et qui est allé de pair donc avec la montée en puissance des couches, en tout cas pas inférieures, c'est-à-dire pas les couches les plus basses de la population, mais enfin les couches inférieures par rapport aux élites traditionnelles de la population qui sont montées en puissance et donc avec des partis populistes. Guillaume, dans le commentaire, je le salue, hein, s'il me regarde, je pense qu'il regardera cette émission, le sujet l'intéressera, parle de partis de droite. C'est ce qu'on dit en Europe. On dit que Netanyahou et Modi sont des partis de droite. J'ai du mal à les voir comme partis de droite, ce que j'ai expliqué dans les ajouts qu'on a fait au clivage dans la réédition. Pour moi, il y a une erreur de parallaxe au niveau de la gestion du clivage. Moi, je pense que localement, Netanyahou comme Modi, peut-être plus Modi que Netanyahou, mais quand même, sont localement des personnalités de gauche, en réalité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont précisément en rupture avec le mode de gouvernement qui a été celui des premières décennies et qui était celui des anciennes élites, qui sont toujours là, mais qui sont les vrais conservateurs localement, hein. Les conservateurs en Inde, ce sont les membres du parti du Congrès qui, justement, sont des nostalgiques de Nehru et de Golda Meir. Narendra Modi, c'est un personnage des classes populaires qui a une nouvelle vision de l'État. Et vous savez que dans l'absolutisation, l'absolutiste est encore une personnalité relativement de gauche. Ça peut être l'amorce d'une transition de l'État de gauche vers la droite. Mais c'est voilà. Donc bon, je vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que c'est pas le sujet de ce soir. Mais voilà, je ne qualifierai pas parce que en Europe. On dit que Netanyahou, on dit que Modi sont des types de droite parce qu'ils sont ethno-nationalistes. Et qu'en Europe, l'ethno-nationalisme, c'est de droite. Mais c'est de droite parce que chez nous, c'était la doctrine de gauche il y a 100 ans. La gauche était ethno-nationaliste il y a 100 ans. C'est comme ça. Elle ne l'est plus. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'être ethno-nationaliste, c'est de droite. C'est de droite en Europe au XXIe siècle. C'était de gauche en Europe au XXe siècle. L'autodétermination, la libre détermination des peuples par eux-mêmes, c'est de l'ethno-nationalisme. Hein. C'est l'idée que les peuples ont le droit d'avoir leur État-nation, hein, simplement. Donc voilà, c'était une idée de gauche. Hein. Bon, c'est devenu une idée de droite. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas en Inde. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que c'est de gauche que c'est devenu de droite en Europe qu'en Inde, c'est de droite. Puisqu'en fait, c'est relatif à l'état historionomique où vous êtes, puisque l'état historionomique, c'est l'évolution de l'ordre établi et que le clivage se définit par rapport à l'ordre établi. Voilà. Donc, je termine cette parenthèse. Donc, pour moi, encore une fois, Narendra Modi, il est de gauche là-bas. Voilà. Mais bon, comme la vision politique au niveau des libertés publiques, etc., et de l'idéologie et de l'ouverture internationale est plus proche au parti du Congrès de ce qu'elle est dans la gauche européenne, on a tendance à considérer que le parti du Congrès est localement de gauche là-bas aussi. Non, le parti du Congrès, on va dire globalement de gauche au niveau de ses idées. En réalité, il est plus proche de certaines idées de la gauche européenne. En réalité, il est localement de droite, voilà, puisqu'il est localement conservateur. Bon, et qu'il se heurte justement aux évolutions que cherche à pousser Narendra Modi. Donc, autre exemple, c'est Martin que je remercie qui a soulevé ces lièvres-là. Ou en particulier, il y a quelque chose qui est assez voisin de ce dont j'ai pu parler récemment, ou je ne sais plus si j'en avais parlé, parce que là aussi l'idée n'est pas de moi, je crois que c'était Antoine qui avait souligné ça, qui est l'idée d'un office du Premier ministre, en fait, qui existe donc en Inde, qui a été créé sous Indira Gandhi et qui est en fait le bureau du Premier ministre et qui double en fait le gouvernement. Donc vous avez le gouvernement qui est responsable devant le Parlement, ça va être problème, mais vous avez une espèce de gouvernement fantôme ou annexe qui est plus technocratique et aux ordres du Premier ministre lui-même et qui est un signe d'absolutisation, c'est-à-dire contournement des institutions normales par quelque chose qui permet d'être autoritaire. Pareil, l'effet du Doge aujourd'hui. Aux États-Unis, on est sur la même dynamique. Il existe la même chose au Canada, donc c'est assez net. Donc on a tout un tas en fait d'éléments. Il y a aussi, semble-t-il, le système de taxation avec les réformes qui ont été menées à partir de 2017. Ben, c'était déjà maudit pour renforcer le pouvoir de l'État central sur les États. Donc là aussi, quand vous avez un renforcement du pouvoir de l'État central sur les États fédérés, signe d'absolutisation également. Donc vous voyez, à tous les niveaux, en fait. Commission Mandal, bureau du Premier ministre, etc. Vous voyez des choses qui tendent à considérer que on est dans une Inde qui sort de la phase oligarchique et qui rentre en phase absolutiste. Et donc, effectivement, encore une fois, qui est au niveau du XVIIe siècle français. Voilà, c'est pas plus avancé que ça. Donc, en retard sur le Bangladesh et naturellement très en retard sur l'Inde, encore une fois, sur la Chine qui a fait sa première révolution nationale en 1911. Et qui était unifié beaucoup plus tôt, encore une fois. Donc c'est tout à fait logique, puisque c'est un processus d'homogénéisation. Plus vous restez morcelé longtemps, plus vous êtes en retard sur votre homogénéisation. Donc ça paraît, tout ceci me semble assez cohérent avec, encore une fois, ce qui était devenu le consensus des historiens, à savoir que l'Inde est en fin de phase oligarchique, d'ailleurs, récemment, tout comme Israël. Le Pakistan, je pense qu'on est à peu près au même niveau, puisqu'il y a eu les mêmes problèmes, assez peu de stabilité de l'État, là aussi, au niveau de la vallée de l'Indus. Encore aujourd'hui, quand vous avez la moitié de votre territoire qui est hostile à votre gouvernance, avec le Baloutchistan, etc., c'est difficile de voir ça comme un État déjà bien centralisé et homogénéisé. Il y a beaucoup de problèmes de minorité là-dedans. Et puis en plus, assez caractéristique de ça, vous voyez aussi que l'État pakistanais est tenu assez largement par l'oligarchie, en particulier un clan comme le clan Sharif, hein, qui est au pouvoir, qui se bat et qui est un peu qui centralise le pôle de résistance à l'émergence de la figure, là aussi, de capitaine du peuple, on pourrait dire, hein, similaire à Narendra Modi, mais au Pakistan, qui a été Imran Khan, et lui qui a carrément été condamné à de la prison après de nombreux troubles que j'ai de loin en loin relayés au cours de diverses émissions que j'avais faites sur la chaîne depuis 3 ans, et naturellement dans le cadre des bulletins hebdomadaires. Donc voilà où on en est vraisemblablement au plan historionomique de l'Inde et du Pakistan. Deux États qui sont en fin de phase oligarchique, l'Inde probablement plus avancée que le Pakistan, les deux étant moins avancés que le Bangladesh et clairement moins avancés que la Chine, par exemple. Bien. Donc voilà où on en est là-dessus. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va vers une guerre importante? Puisque la dernière fois que je vous en avais parlé, je vous avais dit que on montait. Progressive, c'était l'émission que j'avais fait sur le pape, hein, pour ceux qui chercheraient, ont monté progressivement vers cette guerre. J'avais même fait une émission au mois de novembre dernier où j'avais fait un petit rappel sur la loi Locke périodique en disant qu'il y avait des attaques de plus en plus fréquentes. Et d'ailleurs, les deux sujets s'entremêlent. Donc, si on fait un petit point rapide sur ce qui s'est passé les 20 dernières années, vous avez 2001, attaque du Parlement indien, donc confrontation de 2001 dont j'ai parlé tout à l'heure. 2008, vous avez eu les attentats de Bombay. Et là, il n'y a pas eu de riposte indienne. Les Indiens n'ont pas bougé. En 2008-2009, vous avez les premières incursions chinoises, là, parce que t'es chinois, dans le Sikkim. Donc, c'est à l'autre bout, hein, c'est à côté du Bhoutan. En 2013, vous avez eu. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux afficher la carte? Si ça se trouve, je ne t'ai même pas envoyé cette carte. Lol. Je t'ai pas envoyé cette carte à part. Attends, je vais te l'envoyer par Messenger. Celle-ci, parce qu'elle est bien. On voit bien les. Celle de. Je sais pas si tu l'avais, celle-là. Il me semble que je te l'avais envoyée, mais voilà. Si tu peux afficher celle-ci, que j'avais réaffichée dans une de ces dernières émissions. où vous avez donc les tout j'avais listé tous les uniquement les incidents avec la Chine, hein, mais ça vous permet de les repérer. Donc je disais, en 2013, vous avez les incursions chinoises de Daulat Beg Oldi, ça c'était du côté du Cachemire. En 2014, vous avez deux autres face-à-face à Shumar et Demchok, là aussi c'est sur la frontière himalayenne, ça c'est toujours entre Chine et Inde. On repasse entre Inde et Pakistan, c'est l'attaque d'Uri, donc là, attaque terroriste 18 septembre 2016, qui a entraîné des frappes indiennes 29 septembre 2016, mais on en est resté là, simple frappe, vous voyez. En 2017, c'est le conflit au Doklam, donc là c'est entre la Chine et l'Inde, c'est véritablement la première confrontation importante que j'ai rappelée les dernières fois. En mars 2019, il y a l'attentat de Pulwama. Là, c'est entre Inde et Pakistan. Et il y a les frappes indiennes sur Balakot. Dogfight, il a été question à l'époque. On ne savait pas trop j'ai jamais réussi trop à savoir de quel côté un appareil a été descendu ou plusieurs. Mais déjà, on était dans une ampleur assez supérieure de ce qui s'était fait en 2016, hein, puisque 2016, frappe indienne, simplement. Avant ça, quand les Indiens ripostaient, en général, ils envoyaient des commandos pour détruire donc c'était des opérations spéciales qui menaient en territoire pakistanais contre des camps terroristes, mais c'était pas des frappes. Voilà. Quand vous commencez à balancer des armes depuis des avions, c'est quand même un signe d'escalade. Et donc ça a eu lieu en 2019. Mais donc là, il y a eu affrontement avec le Pakistan, des escalades ensuite. Mais en août 2019, il y a eu l'abrogation de l'article 370 de la Constitution indienne. L'article 370 de la Constitution, elle est très très longue, la Constitution indienne, hein. Article 370, c'est la fin de l'autonomie du Jammu et Cachemire, donc la région en fait du Cachemire dominée par les Indiens. Et donc le Jammu et Cachemire a été divisé en deux États, deux territoires, pardon, directement administrés par Delhi. Donc c'est une régression de la capacité démocratique locale. C'est aussi un signe d'absolutisation, hein, quand vous transformez quelque chose en terre d'empire, finalement, comme ça. Et simplement, du coup, ça, comme le gouvernement indien prenait directement le contrôle du Cachemire, ça a fait peur aux Chinois. Pourquoi? Parce que les Chinois, à côté, ils ont l'Aksaï Chine, qui savent que les Indiens aimeraient à terme le récupérer. Et ils ont peur, je vous ai dit pourquoi, parce qu'à ce moment-là, ça ferait un balcon sur le Tibet, ça permettrait d'envahir éventuellement le Tibet chinois, de soulever le Tibet, de mettre les Chinois dans une situation absolument difficile au plan stratégique, naturellement. Je vous rappelle que les Chinois ont très peur parce que, au plan démographique, ils vont être très largement dépassés par les Indiens pendant le siècle qui vient, et donc il y a l'idée que l'Himalaya fait un excellent rempart pour se préparer au jour où ça arrivera. Donc ça a fait peur aux Indiens, et c'est ça, et aux Chinois, pardon, et c'est ça qui a amené la confrontation de Galwan tu laisses pas la carte affichée, Léo, ce sera plus simple pour que les gens suivent. La confrontation de Galwan donc en juin 2020, où là il y a eu des morts, hein, où ils se sont tapés dessus à coups de bâton ferré côté chinois-indien, plusieurs dizaines de morts de chaque côté. En 2021, il y a eu en janvier un autre face-à-face à Nakula, c'est toujours dans la même région, je ne fais pas le détail. En 2022, il y a eu à nouveau des affrontements qui ont encore fait des morts. Entre Chinois et Indiens. Donc, c'était pas aussi fort qu'au moment de Galwan, mais c'était pas loin. Et donc, ensuite, on arrive à l'automne 2024, où ça, c'est la fin de la confrontation entre l'Inde et la Chine. Et donc, avril-mai 2025, désormais, hein, dernier incident en date, l'attaque terroriste de Pahalgam et la guerre de 5 jours, finalement, indo-pakistanaise, avec le cessez-le-feu qui est intervenu le 10 mai. Donc, si vous regardez, vous voyez quand même qu'au niveau log périodique, il y a quelque chose, parce que depuis 20 ans, il y a une accélération, une accentuation des confrontations, et surtout une accentuation, un renforcement de la violence de ces confrontations, puisque c'est allé crescendo dans l'utilisation des moyens militaires, notamment, entre l'Inde et le Pakistan. Entre l'Inde et la Chine, moins, mais il y a de plus en plus de gens qui se sont tapés dessus avec des bâtons et ça a fait de plus en plus de morts, clairement. Et les Chinois sont avancés de plus en plus dans le territoire indien. Donc, cette progression que j'ai identifiée il y a quelque temps, au mois de novembre, log périodique finalement de la confrontation dans la région, continue. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle ce que j'anticipais moi à l'époque dans l'Atlas des guerres à venir, j'avais cherché un scénario, je disais il y aura conflit au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, la Chine se sentira menacée et elle viendra à l'intérieur. Et je vous avais dit dernièrement qu'il pouvait y avoir un intérêt pour la Chine, c'était d'affronter l'Inde alors qu'elle aurait le Pakistan dans la guerre et donc ça la mettrait dans une situation avantageuse. Bon, on n'est pas allé jusque-là, ça a été bloqué avant, notamment en raison des efforts américains. Il semble que Donald Trump ait menacé les Indiens et les Pakistanais de les placer pratiquement sous embargo commercial, c'est-à-dire de ne plus rien faire. Donc forcément, ça les a refroidis, surtout que Modi, le commerce avec les États-Unis, c'est très important. Il essaie de mettre l'Inde en meilleure position que la Chine, donc c'est vraiment une de ses priorités stratégiques. Alors, je pense que les arguments de Donald Trump ont porté de ce point de vue-là. Non, la question, ce sur quoi on peut s'interroger, c'est de savoir, je rappelle, les enjeux locaux. Le Pakistan occupé par le Cachemire voit passer le corridor sino-pakistanais qui permet à la Chine de contourner toute l'Asie du Sud-Est pour avoir éventuellement, en cas d'accès et de blocus des détroits par les Américains, accès directement aux hydrocarbures, si possible, iraniens notamment, et arabes en général. Donc c'est une question de sécurisation de ses approvisionnements et de contournement finalement de l'influence américaine. Par ailleurs, je rappelle que la Chine est dans la même position que l'Allemagne du début du XXe siècle, c'est-à-dire à savoir qu'elle espère ravir la place de première puissance mondiale aux États-Unis. Pour l'Allemagne, c'était l'Empire britannique. Et en même temps, elle sait que derrière elle, il y a un concurrent qui essaie de lui prendre sa propre place. L'Empire russe pour l'Allemagne, l'Inde pour la Chine. Et donc la question c'est est-ce que tout ceci va s'arrêter du coup? Le Pakistan, est-ce que ça montre que ben en fait il y aura rien hein, pour le résumer comme ça? Ou bien est-ce que on est juste encore dans une temporisation avant qu'il se passe quelque chose? Alors je rappellerai d'abord quelque chose que je viens de dire mais qui est vraiment important. C'est que si on prend pour modèle ce qui s'est passé la dernière fois, c'était en 2019, vous avez eu la confrontation du mois de mars. Les Indiens, politiquement et sur le long terme, ont décidé de changer la situation locale par la modification de la Constitution et la modification du statut du Cachemire au mois d'août. Et moins d'un an plus tard, c'est-à-dire au printemps suivant, vous avez eu la confrontation de Galwan avec les Chinois, qui eux ont essayé d'avancer pour garantir leurs droits dans la région, parce qu'ils avaient pris peur. Bon. Là, ce qui s'est passé depuis la fin des combats, c'est que Narendra Modi a déclaré que désormais les opérations n'étaient que suspendues. Donc en fait, l'état de guerre est maintenu, l'état d'alerte des forces en grande partie est maintenu localement au Cachemire. Donc on peut penser que les troupes vont encore être renforcées au Cachemire. Avec un risque de confrontation avec le Pakistan qui sera accru, puisque désormais la moindre attaque terroriste, grosso modo, l'Inde a dit, ça sera la guerre, véritablement. Donc tout ceci a de quoi rendre les Chinois nerveux, et donc on peut supposer que, comme ils l'ont fait en 2020, les Chinois vont essayer de bouger à nouveau pour garantir leurs droits et s'assurer que le changement de situation au Cachemire, l'accumulation de forces indiennes, ne menace pas les intérêts chinois. Ça serait la logique de ce qui s'est passé la dernière fois. Et forcément, vu qu'il y a encore plus de moyens indiens et plus de changements, la réaction risque d'être encore escalatoire par rapport à ce qu'elle avait été la dernière fois. Par ailleurs, il y a des choses qui peuvent mettre la Chine en confiance pour justement pousser son avantage dans ce sens-là, c'est que les matériels chinois aux mains des Pakistanais, on semble-t-il, alors c'est peut-être un succès de communication des Pakistanais, j'ai du mal à lire véritablement qui a raison, qui a tort, hein, puisque tout le monde il y a eu beaucoup, beaucoup d'intox, de désinformation et de propagande sur le sujet, mais vraisemblablement, le matériel a pas mal marché. C'est, semble-t-il, un missile chinois qui a dézingué un Rafale. Alors, peut-être parce que les Indiens avaient tapé sans désactiver les défenses antiaériennes pakistanaises parce qu'ils voulaient pas frapper des installations pakistanaises. À la base, leur idée, c'était de faire comme d'habitude, on tape des camps terroristes. Comme ça, c'est pas le gouvernement pakistanais qui peut s'estimer attaqué. Là, les Pakistanais ont décidé de monter en gamme tout de suite et de lutter. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont fait ça, notamment parce que la Chine en sous-main leur disait allez-y, foutez-leur un pet avec nos armes, on verra ce que ça donne. C'est possible, je sais pas, j'en sais rien. Parce que publiquement, la Chine a appelé au calme, mais bon, voilà, toujours difficile de savoir ça. Parce que mine de rien, du coup, ça a été d'un certain côté une démonstration de faiblesse, ou en tout cas, ça a montré les capacités du matériel chinois, et donc les Chinois peuvent se sentir en position de force. Inversement, du côté maudit, l'Inde ne peut pas vraiment rester sur une situation de faiblesse, dans une situation locale, alors qu'elle se sent de plus en plus encerclée par la Chine et par les alliés de la Chine, notamment depuis que le Népal est devenu un pays pro-chinois, le Bhoutan aussi glisse vers la Chine, le Bangladesh a glissé avec sa révolution, donc forcément, ça nous amène dans une situation compliquée pour l'Inde. Donc, il y a aussi ça qui va les pousser dans ce sens-là. Et j'aimerais quand même filer un petit peu pour terminer historiquement justement le parallèle que je faisais avec la situation en Europe au début du XXe siècle. Tu peux m'afficher la carte, je te l'ai numérotée X, les empires en 2025. Carte un peu sommaire, mais qui aidera à illustrer ce que je veux dire. C'est où là, vous avez bon, naturellement en rouge sombre la Chine, son état vassal finalement qui est le Pakistan, à travers lequel passe le corridor sino-pakistanais, l'Inde qui est l'état concurrent et qui pousse au derrière finalement de la Chine. Et ensuite, grosso modo, en bleu, vous avez le tu l'affiches pas la carte? Elle est où? Tu l'as affichée? Je me rends pas compte. Je suis un peu en retard là sur le truc. Si, c'est bon. Qui est l'équivalent de l'Empire américain. En fait, c'est les possessions véritablement américaines, les Philippines, voilà, tous les alliés proches des États-Unis, la façon dont le monde en fait se dessine autour de la Chine et la façon dont elle le voit, avec des mers qui sont essentiellement contrôlées par les États-Unis et les recours qu'a la Chine au plan eurasiatique. Et en fait, je voulais vous comparer ça avec, tu peux mettre l'autre carte, celle qui nous montre le monde en 1914, s'il te plaît, Léo. C'est la carte numéro Y. Où j'ai gardé le même code couleur pour vous faire le petit parallèle. Où on dit l'Allemagne, on va dire l'espace germanique dans son ensemble, puisqu'au fond, l'Autriche-Hongrie était un partenaire mineur, on va dire, de l'hégémonie de l'Empire allemand. Vous avez donc le grand Empire allemand, on va dire. Empire allemand plus Empire austro-hongrois en Europe, qui est l'équivalent de la Chine actuelle, alors qu'il y avait quelques possessions aussi au Cameroun, en Afrique. Bon, ça, on s'en fiche un peu, c'est pas ça qui est important. Mais pourquoi je vous les fais comme ça? Parce que vous avez l'Empire britannique en bleu, pareil, équivalent de l'Empire américain aujourd'hui. Vous avez en vert l'Empire russe, donc celui qui menace par derrière l'ascension du numéro 2, finalement. Et vous avez, c'est ça le parallèle que je veux faire, vous avez l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui, selon moi, était dans le même rapport, en fait, plutôt aujourd'hui, le Pakistan est dans le même rapport vis-à-vis de la Chine que était l'Empire ottoman vis-à-vis de l'Empire allemand et de l'Empire russe, en fait. Parce que l'Empire russe, depuis le milieu du 19e siècle, progressait en direction des Balkans et en direction du Caucase, justement en grignotant l'Empire ottoman. Donc c'était deux ennemis locaux très importants. Et l'Allemagne a cherché à utiliser cette rivalité à son profit en recrutant finalement dans son système d'alliance l'homme malade de l'Europe et en servant systématiquement ses intérêts contre ceux de l'Empire russe en fait. Et si vous vous souvenez ce que j'avais fait en 1900, en 1900. Quoi. Ce que j'avais fait l'année dernière, je vais te renvoyer la carte si tu peux la réafficher, Léo. Je te donne encore un peu de travail. La carte que j'avais affichée pour expliquer l'applicabilité de la loi Log périodique au conflit. Zut, où est-elle?
Merci,
Ah.
messire. Touchez ma bosse, s'il vous plaît.
Allons, il n'y en a plus beaucoup. Je vous avais donné cette carte pour vous montrer, voilà, pour vous montrer comment la loi Log périodique était applicable au rapport justement aux différentes crises qui avaient amené justement la guerre en Europe sur la base des conflits qu'il y avait entre la sphère d'influence germanique à l'époque et la sphère d'influence russe. Et précisément tous ces conflits, c'est ça qui m'a fait réaliser qu'on pouvait filer le parallèle. Tous ces conflits, en réalité, étaient des conflits autour de l'espace ottoman. Puisque ce sont la crise bosniaque, guerre balkanique et les deux guerres balkaniques qui naissent en fait du recul de l'Empire ottoman, recul de l'Empire ottoman justement provoqué par l'avancée de l'Empire russe qui utilisait en fait les mouvements indépendantistes balkaniques contre l'Empire ottoman. Alors pourquoi c'est très intéressant? Parce que donc sur cette base, dans cette configuration, vous avez véritablement la Chine qui fait avec le Pakistan comme l'Empire allemand avait fait avec l'Empire ottoman, c'est-à-dire elle lui fournissait des armes, elle lui fournissait du soutien contre l'Empire russe, et chose très intéressante, l'Allemagne, l'Empire allemand, avait lancé son propre équivalent des nouvelles routes de la soie. C'était le... Alors, je ne sais pas si je vous ai fait une. Peut-être que Léo, tu peux chercher, s'il te plaît, une illustration qui le montrera. Je croyais en avoir sauvegardé une. Je ne sais pas si je l'ai. Une illustration du chemin de fer Berlin-Bagdad. Et le chemin de fer Berlin-Bagdad, en fait, l'idée, c'était justement d'unifier et d'arrimer véritablement l'Empire ottoman à l'Empire allemand avec ce chemin de fer. Tiens, je crois que je peux te donner cette image-là. Voilà. Tiens. Sinon, il y a celle-ci aussi qui est pas mal. Et en même temps, c'était un moyen pour l'Empire allemand de se projeter géostratégiquement, alors qu'il n'avait pas le contrôle des mers, de se projeter géostratégiquement jusqu'en direction du Moyen-Orient et de la Perse, c'est-à-dire là où désormais les Britanniques étaient allés chercher le pétrole. Et la Perse, c'était justement ce qui était, vous savez, c'était le lieu du grand jeu entre l'Empire russe et l'Empire britannique pendant tout le 19e siècle, jusqu'à ce qu'ils s'entendent au tout début du 20e siècle, c'est en 1904, me semble-t-il, ou 1907, je ne sais plus, pour s'accorder finalement. Et que la France arrive à intégrer le système d'alliance Empire britannique et Empire russe avec elle, jusqu'à ce début, tout début du XXe siècle, le rival de l'Empire britannique, c'était l'Empire russe. À partir de ce début du XXe siècle, vous avez un rapprochement russo-britannique, parce que les Britanniques se mettaient à considérer comme étant leur principal adversaire stratégique l'Empire allemand. Et donc, l'Empire allemand, à ce moment-là précisément, devenait l'adversaire stratégique de l'Empire britannique. Pourquoi? Parce que notamment grâce à ce corridor, on va dire germano-ottoman, devenait elle aussi, ou lui aussi, puisque c'est l'Empire allemand, un acteur de ce grand jeu en direction de la Perse. Et devenait donc un danger, puisqu'il pouvait transporter des troupes jusqu'en Mésopotamie, et donc ça devenait dangereux. Mais vous voyez que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le Laos, y compris pour les nouvelles routes de la soie, et en particulier le corridor sino-pakistanais, vous avez un équivalent dans ce parallèle avec l'Allemagne. Donc je trouve ça très intéressant pour nourrir justement la réflexion, et pour revenir sur cette question que je disais à l'instant et que je disais depuis le mois de novembre, à savoir que nous sommes là aussi face à une occurrence de la loi log périodique, avec des crises qui se succèdent les unes après les autres, et qui tendent vers une méga-crise qui devrait amener à la résolution définitive et violente des conflits entre toutes les puissances impliquées. Et donc pour terminer, parce que sans doute un certain nombre d'entre vous se seront dit, bon ben du coup justement il n'y aura rien, etc. Je rappelle un élément important qui est que parallèlement à ce que je vous ai rappelé là des diverses crises qu'il y a eu dans les Balkans et qui préparaient la Première Guerre mondiale, puisque c'est bien une crise dans les Balkans qui est née la Première Guerre mondiale, il y a eu d'autres crises. Il y a eu d'autres crises directement et par ailleurs entre les Allemands notamment et les Français. Et moi, je vais toujours rappeler ça, c'est le coup d'Agadir. Vous savez, le coup d'Agadir, quand, pour des histoires d'intérêt au Maroc, et d'après les Allemands, d'intérêts violés par les Français, ils ont envoyé une canonnière pour bombarder et intimider. Et à ce moment-là, on a été très proche d'une guerre entre la France et l'Allemagne. À tel point que c'est cet événement-là qui a donné l'impression et qui a motivé Spengler à écrire Le déclin de l'Occident, parce que, vraisemblablement, il a senti qu'il allait y avoir cette grande guerre en Europe, qui serait l'équivalent des guerres du Péloponnèse en Grèce, qui était le début de la fin de la civilisation locale. Sauf qu'à Rénu, en 1911. Effectivement, il y a Rénu. Donc, s'il y avait eu un historionome en 1911 qui avait pensé que qui disait il va y avoir une guerre entre la France et l'Allemagne et qui avait vu le coup d'Agadir, il aurait dit cette fois c'est sûr, sauf qu'il y a Rénu. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a rien eu définitivement, puisque 3 ans après, vous avez le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Je pense qu'on est moins loin que ça, vu le rappel que je vous ai fait de la montée en puissance des affrontements entre l'Inde et la Chine, pardon, la Chine et le Pakistan d'un côté et l'Inde de l'autre, depuis les 20 dernières années. Et je pense que ce qu'on a vu ces dernières semaines, il ne faudra pas attendre un an pour qu'on ait à nouveau des frictions entre la Chine et l'Inde. Et donc je pense que les choses vont continuer à accélérer très fortement et qu'on arrive véritablement dans la dernière ligne droite. Je vous avais dit en novembre, justement, qu'à mon avis, il y aurait des tensions avec la Chine qui réapparaîtraient assez vite, probablement d'ici quelques mois. Ça n'a pas été avec la Chine, ça a été entre l'Inde et le Pakistan, mais la Chine est impliquée par ses armements, par le corridor sino-pakistanais, par ses intérêts au Gilgit-Baltistan, donc le Pakistan occupé par le Cachemire occupé par le Pakistan. Et donc, à mon avis, la guerre des trois aura lieu. C'est mon diagnostic. Et c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Alors, je pense qu'il va y avoir un live privé malgré tout, comme il y en a toujours, réservé à notre cher souscripteur, qui permettent à cette chaîne de tenir, en dépit de la fatigue et de l'épuisement. Hein, je n'ai pas pu faire d'émission la semaine dernière pour cette raison-là. J'ai dû reporter celle-ci parce que j'étais claqué hier, mais bon, elle m'avait demandé aussi un peu de préparation. Donc, il va y avoir live privé souscripteur quand même pour remercier nos chers souscripteurs d'être là après. Mais est-ce qu'on a des questions de dons à traiter avant, mon cher Léo?
Non, on a juste ce don de Thomas le boss qui nous dit: je ne peux pas assister au live ce soir, gros bisous d'un homme heureux, hâte de vous voir le 15 juin. Cœur
Mais
enflammé.
merci, cher ami. On y sera aussi.
Attends, je n'ai rien compris là, il y a un truc le 15 juin?
Oui, il y a un truc le 15 juin, mais je pense honnêtement que les gens qui sont là encore à la fin l'ont vu au
Mais
début.
surtout qu'en plus, non mais surtout qu'en plus, voilà quoi. Il reste plus longtemps, les amis.
Voilà.
Imaginez, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec 20 balles.
Dans 24 heures, dans 24 heures, dans 24 heures, les tarifs augmentent.
Ouais.
Voilà, donc encore une fois, émission historionomique, c'est un petit peu mes préférés. J'adore passer du temps à les préparer, les faire. Naturellement, j'aurais plus de temps si j'avais que ça à faire. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et si vous voulez qu'un jour ce soit le cas et qu'on puisse faire encore plus d'émissions historionomiques, n'hésitez pas à nous soutenir fortement. Merci à Dr Sherlock qui est là depuis 30 mois. Un certain nombre d'entre vous et un nombre de plus en plus grand sont là depuis des années et vraiment on les remercie. C'est grâce à vous qu'on arrive à toujours être là et à se remotiver même quand la fatigue est présente. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour, à partager, liker, sonner cloche, etc. Je retrouve tout de suite nos chers souscripteurs. Si vous voulez le devenir, vous avez toutes les explications en description. Je vais retrouver nos chers souscripteurs en live privé. Je vais y répondre à toutes leurs questions. Et.